RFI.
Les coqs chantent les jours pareils, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Cette semaine, nous allons à N'Djamena. Dans la capitale de la République du Tchad, s'est tenue du 25 au 28 juillet 2017 la conférence des ministres de la CEAC sur l'écosécurité, le conflit homme-faune et les autres conflits liés à l'utilisation des terres en Afrique centrale.
Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs.
Derrière cet intitulé officiel de la conférence, il faut voir beaucoup de choses. L'Afrique centrale dispose d'un capital naturel abondant, varié, divers et diversifié, constitué des ressources d'origine biologique et non biologique, parmi lesquelles se trouve le coltan dont 85% des réserves mondiales se trouvent en RDC. Ces ressources sont avec le bois au cœur de l'économie de la majorité des États et cohabitent avec une flore et une faune variées. Ce capital naturel du sol, du sous-sol et des fonds marins est pillé, volé et saccagé par des groupes criminels, voire terroristes de diverses origines utilisant des armes de guerre. Cette criminalité environnementale ou l'exploitation illégale des ressources naturelles alimente le commerce illicite en la matière, causant ainsi des pertes économiques énormes aux États et des menaces sur la paix et la sécurité, sur la survie des espèces biologiques et des conditions de vie de population. Aujourd'hui, les spécialistes parlent d'écosécurité. Il se trouve qu'un État tout seul ne peut pas faire face à un phénomène transnational. Et c'est pourquoi l'affaire a été confiée à la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, organisme d'intégration sous-régionale regroupant 11 pays. Les explications de Henri Diombo, ancien ministre congolais de la forêt et de l'économie forestière et aujourd'hui ministre de l'agriculture.
Il s'agit d'un combat permanent pour sécuriser nos ressources naturelles. C'est un combat permanent, comme je l'ai dit, et qui appelle l'intervention de toutes les parties prenantes. On peut dire en général que la conservation de la biodiversité en Afrique centrale est réalisée particulièrement dans des espaces bien définis que nous appelons les aires protégées. Malheureusement, ces aires protégées ne le sont que virtuellement, dans la mesure où elles sont sous-équipées, sous-administrées, sous-financées. On n'a pas l'impression qu'on a les moyens de l'éradication, par exemple, du braconnage dans nos pays. Les ressources qui sont affectées à la conservation sont extrêmement faibles. Jusque-là, il n'y a pas une seule initiative, qu'elle soit régionale ou internationale, qui permette d'entrevoir une meilleure situation dans le domaine de la faune sauvage. Et bien sûr, toutes ces perturbations sont causées par l'organisation d'une mafia internationale qui exploite abusivement notre biodiversité. L'Afrique avait adopté, il y a 2 ans exactement, le chef d'État avait adopté la stratégie commune africaine de lutte contre l'exploitation illégale et le commerce illicite des produits de la faune et de la faune sauvage d'Afrique. Il s'agit de la mettre en œuvre.
Si j'ai bien compris, vous vous êtes réunis ici au niveau ministériel pour harmoniser les points de vue à 11, les politiques nationales à 11.
Un seul pays ne pourra pas venir à bout des problèmes qui se posent aussi bien dans l'éco-sécurité que les problèmes de gestion issus de la gestion des terres, les conflits qui naissent entre les agriculteurs et les éleveurs, y compris l'eau.
Et l'agriculteur dans tout ça?
Eh bien, l'agriculteur est à la recherche d'un espace de subsistance, d'un espace pour développer ses activités. Mais il faut que, à la base d'abord, le problème foncier soit bien réglé au niveau des États afin de sécuriser les terres agricoles. Puis aussi l'agression par d'autres activités sur les terres agricoles représente une autre menace. Par exemple, vous avez un champ et puis des troupeaux de bétail viennent là brouter. Vous avez une réserve d'eau, puis les animaux qui ne sont pas les vôtres viennent s'abreuver. Alors, il y a des conflits qui naissent entre acteurs. Il faut les résoudre selon les réalités locales. Il faut que les États soient en mesure d'intervenir et d'arbitrer de manière efficace ces situations qui se passent entre acteurs. C'est d'abord une question locale et nous devons tirer parti des expériences réussies de règlement des conflits dans d'autres pays. Et l'expression, la manifestation de ces conflits est différenciée selon les pays et je crois qu'il faut que nous échangeons davantage sur ces questions pour pouvoir nous entraider.
C'est-à-dire que là, il faut vite passer à l'acte parce qu'il y a urgence.
Il y a urgence. Il faut qu'il y ait une task force qui agisse sur le terrain.
Task force, ça veut dire qu'il faut des hommes sur le terrain, y compris des hommes en armes.
Exactement. Il faut des hommes sur le terrain. Il faut des interventions communes entre, disons, la force publique et les éco-gardes. Il faut qu'il y ait comme une organisation bien charpentée au niveau régional. Il faut un état-major au niveau donc régional qui donne des ordres, qui coordonne les actions sur le terrain, pays par pays, et que l'on donne les moyens qu'il faut pour déployer cette task force, parce que les idées sont bonnes, les projets aussi, mais sans ressources financières et sans motivation des acteurs sur le terrain, et on ne peut pas s'attendre à des résultats. On prend des initiatives puis elles s'arrêtent parce qu'on ne les a pas accompagnés des moyens de mise en œuvre et cela est regrettable.
Tirer profit des expériences réussies dans d'autres pays, le cas du Tchad est emblématique. Pays à la jonction entre la forêt au sud, les savanes sahéliennes et le désert au nord, le Tchad a été très durement touché par la dégradation de l'environnement et l'exploitation illégale et abusive des ressources naturelles. En matière agricole, seul 2,8% du territoire tchadien est cultivé. Pays d'élevage par excellence, le Tchad compte près de 94 millions de têtes de bétail. Deuxième source de revenus après le pétrole, la part de l'élevage dans le PIB national est de 53% et fait vivre environ 40% de la population. Dans les échanges, il représente 30% des exportations, soit 37,5 milliards de francs CFA en 2014. C'est dire que les conflits entre éleveurs et agriculteurs au Tchad, on connaît la question. Pour ce qui est du braconnage, le sud du Tchad est touché par ce phénomène. C'est un pays qui a dû réagir. Brat Mahamat est ministre tchadien de l'Environnement et de la Pêche.
Merci Sayouba. La situation, comparée à il y a 15-20 ans, on peut dire qu'elle s'est nettement améliorée du point de vue de la conservation de la biodiversité dans sa globalité. Nous sommes, comme vous le savez, un pays en proie à la désertification. J'allais dire un pays mangé par la désertification. La grande partie, j'allais dire, est mangée déjà par la désertification. Et ce travail d'adaptation, de reboisement est fait au Tchad de longue date.
C'est-à-dire que les communautés villageoises se sont adaptées d'elles-mêmes à ce qui se passait.
Bien sûr, d'elles-mêmes. Aujourd'hui, si j'entends les gens dire adaptation, peut-être nous, on n'a pas utilisé le mot. Sinon, déjà de façon naturelle, les gens jaloux de leur terroir et ne voulant pas le fuir, ils se sont adaptés et restés. Mais depuis que le gouvernement en 72 a pris la mesure de la dangerosité du phénomène et a mis tout de suite en place ce qu'on a appelé la Semaine nationale de l'arbre. Donc c'est une activité qui revient chaque année, qui est dédiée au travail de reboisement sur l'ensemble du territoire, à mois d'août, quand le sol est bien arrosé. Depuis cet instant-là, le gouvernement est allé à la rescousse des populations et donner à ces populations-là qui en expriment les besoins, les plans nécessaires et procéder à la mise en place des pépinières un peu partout pour que les villageois eux-mêmes arrivent à reboiser pour lutter contre l'avancée du désert, mais aussi pour se protéger contre le vent des sables et ces poussières immenses qui crée la conjonctivite, qui rend la visibilité nulle et qui cause beaucoup de désagréments à la population.
Donc dans un premier temps, il fallait d'abord restaurer d'urgence le cadre de vie.
Bien sûr, le cadre de vie, il faut le restaurer d'urgence parce qu'ici, il y a une tradition qui voudrait que chacun garde son territoire, quelle que soit la difficulté de la vie. Quel que soit le manque de clémence de la nature, les gens préfèrent rester chez eux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Cadiens ne migrent pas.
En tout cas, il n'y en a pas beaucoup. C'est dû à cette tradition-là.
Je respecte cela, mais je dis qu'il faut rester chez soi.
Maintenant, il y a un autre phénomène, toujours l'action de l'homme, qui vient s'ajouter à cette histoire, le braconnage. Et je précise que ce n'est pas le braconnage villageois qu'on connaissait avant, celui-là est international.
Le braconnage, et c'est de cela qu'on va discuter lors de cette conférence. Le braconnage s'est fait aujourd'hui à grande échelle par des hommes puissamment armés, des anciens rebelles, des militaires des pays ayant traversé des moments difficiles, comme peut-être la RCA, des gens du Darfour sont venus aujourd'hui qui écument la brousse tchadienne, là où les pachydermes se trouvent. Donc leur cible, ce sont les éléphants. Ces éléphants-là sont aujourd'hui braconnés, sans autre forme de pressée, rien que pour en extraire les ivoires et aller les vendre. Donc c'est l'argent de l'ivoire vendu qui alimente un peu les réseaux terroristes à l'international, d'où la nécessité pour nous, en tant qu'État donc de la sous-région, de mutualiser nos forces et d'harmoniser nos taxes pour que cette lutte anti-braconnage se fasse exactement à la hauteur de ce braconnage-là.
De toute façon, vous n'avez pas le choix parce qu'un éléphant, il ne va pas s'arrêter à la frontière parce qu'il y a un douanier. Une rivière ne connaît pas la frontière. Et une aire protégée non plus.
De la même manière que la criminalité également est transfrontalière. Le Cameroun a un parc donc dans son septentrion qu'on a appelé parc de Boubangida qui est carrément juxtaposé du côté tchadien au parc national de Senaoura.
Ah, c'est pour ça qu'on dit le complexe Boubangida-Senaoura.
Exactement. Donc, vous comprendrez aisément qu'il est nécessaire pour nous de mutualiser nos forces, de mettre en commun nos intelligences, nos maigres ressources pour combattre les ennemis de la nature. Ce n'est pas seulement la lutte anti-braconnage qui nous intéresse. On va au-delà pour lutter contre tout ce qui est dégradation de l'environnement. Au Tchad, on l'a déjà commencé. Déjà, au niveau du CITES, on est connu pour être un peu le champion en matière de lutte anti-braconnage. CITES, c'est le Conseil international du commerce illicite des espèces fauniques. Donc, nous, à ce titre, on joue un rôle de premier plan. Il a fallu l'armée, puisque les braconniers, ce sont des anciens militaires, des anciens rebelles qui sont armés, ils sont surarmés. Donc, à cette force, il faut opposer une autre force qui a le même arsenal, sinon plus. Et grâce à cette mesure, aujourd'hui, la faune au Tchad s'est reconstituée.
C'est quelle église, ça ? On a plusieurs églises ici, hein.
Mais c'est la musique de quelle église ?
comprend donc pourquoi les conférenciers parlent d'écosécurité, ce qui comprend la notion de droit de poursuite. En termes simples, le droit de poursuite donne la possibilité à une force anti-braconnage de franchir une frontière entre États dans sa lutte contre les braconniers. Et les forces du pays tiers prêtent main forte aux poursuivants étrangers. Ce genre de discussion technique se mène au niveau supranational. Madame Josepha Sako est commissaire de l'Union africaine en charge de l'agriculture et du développement rural.
Au niveau de l'Union africaine, nous avons notre agenda, la 2063, dont l'aspiration numéro 1 de cet agenda, c'est la préservation de la nature pour un développement durable. On a déjà mis en place une stratégie continentale pour la conservation de la nature. On a eu la réunion de Brazzaville en 2015 et les chefs d'État ont décidé qu'on doit passer à la mise en œuvre de la décision de la conservation de la nature. C'est vrai que parfois, la question c'est la mise en œuvre à cause de problèmes de la mobilisation de ressources, parce qu'on met les instruments, mais la mise en œuvre, souvent, c'est dû à la manque de financement.
Moi, je dirais qu'il y a urgence dans la mesure où les ressources diminuent, les populations augmentent. Et on sait que la majeure partie des populations des pays africains vivent en milieu rural et dépendent fortement des ressources naturelles.
Et voilà le sens de l'Union africaine, de la communauté, des communautés économiques régionales et puis les États membres. Nous devons travailler tous ensemble pour harmoniser les politiques. Les idées sont de taille, mais nous avons un roadmap qui peut nous guider à travailler ensemble et chercher les solutions et partager les expériences. Par exemple, pendant que l'Afrique centrale est en train de voir les problèmes de braconnage, l'Afrique de l'Est est plus avancée, dont le Kenya, l'Afrique du Sud. Donc voilà, ces plateformes sont tellement importantes pour l'échange d'expériences et apprendre les bonnes leçons, les bons exemples qui sont dans notre continent.
C'est ce qui explique une rencontre comme celle que nous sommes en train de vivre.
Et vous voyez pourquoi l'Union africaine est là. L'Union africaine est là pour chapeauter toutes ces initiatives, parce que ce sont des décisions de nos chefs d'État. Et la réunion ministérielle qu'il y a au Tchad, à N'Djamena, c'est pour appliquer, c'est pour la mise en place de la décision des chefs d'État. On commence au niveau continental, au niveau sous-régional, ici la CIAC, et puis au niveau national. Normalement, ça c'est le schéma que nous menons pour la mise en œuvre de décisions de nos chefs d'État.
Je vous remercie, madame, de nous avoir reçus ce matin, d'autant plus que vous êtes attendue.
Merci, RFI.
Suivant cet agenda diplomatique et cette vaste mécanique institutionnelle, en Afrique centrale, la conservation et l'écosécurité, c'est l'affaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Mfula Marie-Thérèse Chantal est secrétaire générale adjointe en charge de l'intégration physique, économique et monétaire de la CEAC.
Vous vous souvenez que des braconniers ont ravagé des centaines d'éléphants dans le parc national du Cameroun à côté, Boubadjida, en 2012. Une réunion s'est tenue en 2013 avec des ministres en charge des forêts, de la défense, etc. Tout ça pour prendre des mesures afin de réduire cette menace des braconniers qui met même en péril la sécurité de nos États. Il y a toute une série d'activités qui vont être organisées autour non seulement de l'écosécurité, l'éco-agriculture, l'économie des parcs zoologiques, parce qu'il faut, avec l'économie verte, créer des emplois, multiplier les sources d'entrée de revenus pour nos États qui ne peuvent plus se permettre de ne compter que sur le pétrole, qui subit une baisse drastique des cours sur le marché international. Petit à petit, on obtient des résultats assez satisfaisants.
Je vous remercie, madame.
C'est moi qui vous remercie.
Il y a une philosophie d'ensemble qui soutient toutes ces actions, ce que les spécialistes appellent l'économie verte. Celle-ci se définit comme l'activité économique qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie des ressources. Le docteur Honoré Tabouna est expert en valorisation de la biodiversité et de l'économie de l'environnement à la CEAC à Libreville.
Cette économie ou ces activités économiques qui font le lien entre la protection de l'environnement, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et surtout le développement des entreprises et la création d'emplois. La valorisation de la biodiversité à travers l'économie de l'artisanat et des petites entreprises. Et bien, je terminerai aussi sur une question qui m'intéresse beaucoup, qui intéresse la sous-région, c'est la valorisation des savoir-faire traditionnels portés principalement par les populations autochtones et locales dans toutes les zones écologiques de la sous-région. Donc bon, on va faire porter, disons ça, sur le chapeau de économie verte, hein, qui n'est que pour nous une façon de passer de la conservation à l'économie de la conservation. Est-ce que la conservation peut avoir de la valeur économique au point où qu'elle puisse participer, disons, au PIB, donc à la croissance, au développement économique d'un pays, d'un État?
Cette phase de l'action, il s'agit d'envoyer sur le terrain des hommes en armes pour contrer le contrebandier.
L'un des grands résultats, surtout, c'est la mise en place, ou bien l'idée de créer des unités spéciales d'éco-sécurité pour protéger la transformation structurelle de l'économie des ressources naturelles en Afrique centrale. Parce que, comme vous le savez, depuis un moment, le braconnage a changé d'acteur. On parle même de sources d'instabilité de la sous-région. Donc,
C'est normal parce que quand un braconnier attaque moi villageois, je ne vais pas rester au village.
Absolument, pas du tout.
Hein. Et je ne peux pas aller au champ.
Ah, tout à fait, tout à fait. Donc il y a des menaces pour la vie des populations, pour leur économie également. Donc voilà pourquoi en face d'une force de frappe et de feu, il faut une autre force de feu. Et voilà, nous avons pensé que le moment était venu d'avoir dans la sous-région, dans les 11 États, une unité spéciale d'éco-sécurité qui devrait donc jouer plusieurs rôles ou bien qui aura plusieurs missions dans la protection des ressources naturelles. Nous voulons développer par exemple l'écotourisme, mais si vous n'avez pas d'animaux...
Et aussi le tourisme ne se sent pas en sécurité.
Donc là, nous avons un programme qui va accompagner le développement de l'économie du tourisme, le développement de l'économie des aires protégées, le développement de l'économie rurale d'une façon générale, et qui va même accompagner l'aménagement du territoire. Nous nous sommes réunis ici pour montrer qu'il fallait, sur les programmes qui ont été retenus, commencer par un des programmes qui est vraiment fondamental, celui de l'écosécurité. Voilà, ça permet aux États de sécuriser l'exploitation de leurs ressources naturelles, de toutes les ressources naturelles, y compris l'eau, y compris les montagnes, les parcs zoologiques, les jardins botaniques. Voilà, voilà, ça c'est l'effort à faire et c'est ça qui va permettre aux États de prendre conscience que en Afrique centrale, compte tenu de notre capital naturel, il faut tout faire pour que ce capital naturel-là se transforme en capital productif, en créant des emplois, en développant l'économie, en améliorant les conditions de vie de population. Nous avons ici les 5 zones écologiques. Vous avez le Sahara, vous avez le Sahel, vous avez la savane sèche, vous avez la savane humide, vous avez la forêt humide, vous avez la forêt sèche.
Mais il y a même des façades maritimes et des parcs.
Exactement, exactement. Sur le plan culturel, nous avons plus de 1000 ethnies dans la sous-région. Et quand vous rentrez à l'intérieur de chaque ethnie, vous découvrez plusieurs segments de la culture. Et là, on peut aussi donner de la valeur économique à ça. Voilà pourquoi, par exemple, dans le cas de l'écotourisme, qui va faire le lien entre, disons, le capital naturel et le capital culturel, l'Afrique centrale a des avantages comparatifs, a des choses à proposer, disons, aux touristes du monde.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
La cérémonie de clôture de cette conférence ministérielle, une dernière causerie avec Charlie Fâcheux, qui est vice-président en charge des projets de conservation de l'African Wildlife Foundation ou AWF. C'est une organisation non gouvernementale fondée en 1961 en vue d'encadrer les populations locales pour la préservation des ressources naturelles.
Nous militons pour une préservation de l'environnement. Nous militons pour, évidemment, pour que l'environnement cohabite avec le progrès. L'Afrique a besoin de se développer et l'environnement a sa place. Nous militons aussi pour que les populations qui vivent autour des aires protégées aient une vie meilleure.
Il y a cette richesse, mais il y a aussi les nécessités. parce que la majeure partie de la population africaine vit au village, et au village on trouve tout dans les ressources naturelles, pharmacopées, nourriture et tout.
Ça veut dire effectivement que ces richesses-là doivent permettre aux populations de se soigner, de se nourrir, de générer des revenus.
Et que faites-vous concrètement pour ces familles-là dans les villages? Qu'est-ce que vous faites sur le terrain?
D'abord, je vous dis que nous sommes dans à peu près 23 pays en Afrique avec des projets. Nous travaillons avec des communautés très pauvres. Au Cameroun, en RDC, en Ouganda, en Tanzanie, je peux citer plusieurs pays, nous avons pu améliorer le niveau de vie des communautés. Elles sont passées, par exemple, d'un niveau de moins de 1 dollar par jour à peu près à 3 dollars par jour. Simplement en mettant en place des activités socio-économiques qui peuvent cohabiter avec un souci d'environnement.
Quel type d'activité, par exemple?
Nous avons le conflit homme-faune, où les éléphants ont toujours détruit le champ des communautés. Nous avons mis un système où, effectivement, un champ de piment, qui, dans la zone, est un produit qui rend beaucoup d'argent, a également la qualité de repousser les éléphants. Donc, ces communautés génèrent énormément de revenus en produisant et en vendant le piment. Ce piment également permet de sécuriser leur champ de maïs, qui est leur nourriture quotidienne. Et en même temps, nous diminuons les conflits homme-faune, qui, je vous dis, en 2016, par exemple, nous avons eu plusieurs morts. Et nous pensons effectivement qu'en mettant ce genre de projet, nous protégeons la vie des communautés et nous augmentons leur niveau de vie.
Ce que vous venez de me citer, c'est des pays où il n'y a pas, bon, c'est la forêt, il n'y a pas vraiment, et l'environnement n'est pas si dégradé que ça. Mais l'Afrique, il y a des zones aussi où l'environnement est tellement dégradé que c'est devenu fragile.
Nous travaillons également dans les zones où l'environnement est dégradé. Par exemple, nous sommes dans un projet au niveau du Faro. Et on a également travaillé au niveau du Boubanguia.
Le Faro, c'est quoi?
Le Faro, c'est une aire protégée qui est au niveau du Cameroun. Également, Boubanguia, qui est une aire protégée bitransnationale avec le Tchad. Dans ces aires protégées également, où l'environnement est dégradé, nous avons un programme d'amélioration et d'utilisation des terres. On dit toujours que, moi je dis toujours, nous disons toujours à WWF, les conflits homme-faune anticipent les conflits homme-homme. Et il est donc important de bien prendre en considération ces conflits. La prise en considération, par exemple, de la transhumance dans une zone sahélienne, là où nous sommes...
Là, vous parlez d'élevage.
Je parle d'élevage. C'est très important. Parce qu'effectivement, on ne peut pas prendre en considération le souci des éleveurs d'avoir un espace de pâturage pour leur bétail. Et on devrait également tenir compte qu'effectivement, ce pâturage peut coexister avec les aires protégées. Nous travaillons avec les communautés, nous travaillons avec les chefs traditionnels pour prendre en considération les différents couloirs. Autant les animaux ont leur corridor, autant le bétail peut avoir son corridor.
En fait, c'est les fils du pays, c'est des enfants des villages.
Voilà, c'est des enfants des villages. Nous ne partirons nulle part, nous sommes là. Nous travaillons avec nos frères et sœurs, nos parents, nos cousins, et leurs problèmes sont nos problèmes. Je pense qu'il n'y a pas meilleure personne pour parler des problèmes que ceux qui vivent ces problèmes-là.
Je vous remercie.
Je vous remercie également.
Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale.
Nous étions en N'Djamena où s'est tenue la conférence des ministres de la CEAC sur l'écosécurité, le conflit homme-faune et les autres conflits liés à l'utilisation de la terre en Afrique centrale du 25 au 28 juillet 2017. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Moshinsky, au micro Sayouba Traoré. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante.
Distingués participants, président de African World Life Foundation, with my English mood.